Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 5 juillet 2024. Les régimes militaires de l'Alliance du Sahel tiennent leur premier sommet demain samedi à Niamey au Niger. Le Congo-Brazzaville abrite aujourd'hui le sommet africain sur le reboisement. Une majorité de Camerounais salue la décision de la Confédération africaine de football de blanchir Samuel Eto'o sur les soupçons de manipulation de matchs dans le championnat local.
C'est normal parce que l'éthique a été sanctionnée. Je crois quand même que pour la décision de la CAF, le trucage des matchs, il n'y a pas eu d'éléments au banc pour pouvoir l'accuser à ce niveau.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Le nouveau premier ministre britannique, Keir Starmer, promet de rebâtir le pays. L'archevêque ultra-conservateur italien Carlo Maria Vigano a été jugé coupable de schisme et excommunié par le pape. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Les chefs des régimes militaires burkinabés, maliens et nigériens, réunis depuis septembre 2023 dans l'Alliance des États du Sahel, vont demain samedi avoir leur premier sommet à Niamey, la veille du sommet de la CEDEAO à Abuja, l'organisation ouest-africaine dont ils ont claqué la porte au début de l'année. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la transition du Burkina Faso, est déjà lui à Niamey. Il a été accueilli par le général Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ils seront rejoints demain par le colonel Assimi Goïta du Mali pour ce premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, dont les sujets qui seront discutés ne sont pas encore connus. On sait juste qu'au mois de février dernier, des ministres des trois pays réunis à Ouagadougou ont révisé la charte de l'IPTACO qui crée l'AES. Ils ont également élaboré un traité portant sur la Confédération des États du Sahel. Des sources proches des trois juntes indiquent que la rencontre de Niamey se penchera sur les deux documents ainsi que sur la définition de la forme juridique et l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES. Des questions sécuritaires et de développement commun qui sont les objectifs initiaux de l'AES vont sans doute être également évoquées avec peut-être des annonces. Cette première rencontre au sommet des chefs d'État de ces trois pays en transition militaire se tiendra à la veille d'un sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de la CEDEAO dont les trois pays se sont retirés en janvier dernier. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Brazzaville accueille ce vendredi un sommet africain sur l'afforestation et le reboisement, une initiative visant à planter davantage d'arbres pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences. John Lindon.
Cette conférence à laquelle assiste une demi-douzaine de chefs d'État s'intègre dans la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement lancée par le président congolais Denis Sassou Nguesso lors de la COP27 en Égypte. La présente conférence apparaît comme l'amorce d'un processus de recherche et de riposte salvatrice. La situation déjà connue de changement climatique demeure préoccupante, a souligné Denis Sassou Nguesso. Il est prévu à l'issue du sommet l'adoption d'une déclaration de Brazzaville qui a été soumise aux dirigeants par les experts réunis depuis mardi dans la capitale congolaise avec des représentants des populations autochtones ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'enjeu majeur aujourd'hui est non seulement de stopper la disparition des forêts, mais aussi de restaurer celles qui ont disparu, puis d'en créer de nouvelles, a souligné Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine.
Annoncé jeudi par les États-Unis, une trêve humanitaire dans le conflit opposant dans l'est de la République démocratique du Congo les forces gouvernementales à la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, semblait observée ce vendredi sur le terrain selon des sources locales. La semaine dernière, les rebelles ont conquis de nouvelles localités sur le front nord du conflit, provoquant de nouveaux déplacements de population. Le Sénégal doit africaniser les symboles de sa justice hérités de la colonisation française en modifiant la tenue de ses magistrats ou en remplaçant l'allégorique Thémis par une déesse africaine, préconise un rapport en vue d'une vaste réforme du système judiciaire. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, élu en mars sur la promesse de rupture systémique avec le passé, a assuré que cette africanisation serait au cœur de ses préoccupations avec la réforme du code pénal et du code de procédure pénale ou la mise aux normes des lieux de détention.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent, le tout nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a promis aujourd'hui un renouveau national pour le Royaume-Uni après la victoire écrasante du Parti travailliste aux législatives. Le point avec Michel Joseph.
Le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, a promis vendredi de rebâtir et unifier le Royaume-Uni après la victoire écrasante de son parti travailliste aux élections législatives. « Nous reconstruirons le Royaume-Uni », a lancé le dirigeant de 61 ans devant Downing Street après avoir été chargé par le roi Charles III de former un gouvernement. Parmi ses premiers rendez-vous, le sommet du 75e anniversaire de l'OTAN la semaine prochaine à Washington. Le Labour, le parti travailliste, a décroché 412 sièges, bien au-delà des 326 pour obtenir la majorité absolue à la Chambre des communes et pouvoir gouverner seul. La députée travailliste Yvette Cooper est nommée à l'intérieur et le spécialiste des questions internationales, David Lammy, prend la tête du ministère des Affaires étrangères. C'est la première fois depuis 2010 que le Labour va diriger le pays, après 14 ans de gouvernement conservateur et une succession de crises. Austérité, Brexit, envolée des prix et une valse des premiers ministres.
Plusieurs défis attendent le nouveau premier ministre britannique, notamment les stratégies contre l'inflation, les guerres en Ukraine et à Gaza et l'immigration. En matière d'immigration, Keir Starmer a clairement indiqué qu'il abandonnerait le projet des conservateurs d'envoyer certains migrants au Rwanda pour que leur demande d'asile y soit traitée. C'est ce que rappelle Henri Riguel, correspondant de la Voix de l'Amérique en Europe occidentale, au micro de Nani Talani.
Mécontentement voit la colère face à leur performance au cours de la dernière décennie. Les électeurs semblaient en avoir assez du parti conservateur après 14 ans au pouvoir. Depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016, le Parti conservateur a connu une période de grande instabilité. Il y a eu 5 premiers ministres en 8 ans, parmi eux Boris Johnson, qui était une figure populaire lors de son élection, mais sa politique économique a conduit à l'effondrement des marchés financiers et de la livre sterling. Cela a fait monter l'inflation. Et ensuite, Rishi Sunak n'a pas réussi à inspirer les électeurs.
Quels sont les défis qui attendent le nouveau gouvernement?
Premièrement, ils ne sont pas très populaires. Ils ont obtenu moins de 40% de tous les votes. La Grande-Bretagne a désespérément besoin d'investissements dans des domaines tels que les infrastructures, la réparation du service national de santé et les écoles, mais il n'y a pas d'argent pour le payer. Les travaillistes arrivent également au pouvoir dans un pays divisé depuis le Brexit et continue de l'être sur les questions telles que les inégalités, l'immigration, l'identité et les valeurs. L'extrême gauche et l'extrême droite gagnent en popularité. Cela posera un défi aux partis établis.
Henri Ridgewell, correspondant de la Voix de l'Amérique en Europe occidentale. Le Vatican a annoncé aujourd'hui une décision très rare, l'excommunion d'un archevêque italien, l'un des plus virulents critiques du pape François. Il est condamné pour schisme après avoir rejeté l'autorité du chef de l'Église catholique, Lionel Gaïma.
Monseigneur Carlo Maria Vigano, 83 ans, a été exclu de l'Église en raison de son refus de reconnaître et de se soumettre au souverain pontife, a indiqué le dicaster pour la doctrine de la foi. Une personne excommuniée a interdiction totale d'administrer, de recevoir les sacrements et d'exercer des fonctions ecclésiastiques selon le droit canonique. Cet influent prélat italien a indiqué avoir été convoqué le 20 juin devant la justice du Saint-Siège, mais ne s'était pas présenté et a été jugé par contumace. Monsieur Vigano, ambassadeur du Saint-Siège à Washington de 2011 à 2016, avant de prendre sa retraite, était un accusateur chronique du pape. En août 2018, il avait même appelé à la démission du pape, l'accusant d'avoir longtemps protégé l'ex-cardinal américain Theodore McCarrick, défroqué en 2019 pour des violences sur mineurs. Un an plus tard, l'ancien secrétaire général du gouvernorat du Vatican a publié une longue lettre de soutien inconditionnel à Donald Trump, critiquant le confinement pendant la pandémie et justifiant la répression des émeutes aux États-Unis.
Quelques 61 millions d'Iraniens sont appelés ce vendredi aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le candidat réformiste Massoud Pezeshkian à l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Le scrutin est suivi avec attention à l'étranger, alors que l'Iran, poids lourd du Moyen-Orient, est au cœur de plusieurs crises, de la guerre à Gaza au dossier nucléaire dans lequel il s'oppose aux pays occidentaux, notamment les États-Unis, son ennemi juré. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La Banque internationale pour la reconstruction et le développement a suspendu le Gabon de la liste des pays éligibles à des financements à partir du 1er juillet. Cela s'applique aux prêts de la banque non retirés, aux avances des fonds de préparation de projets et de développement institutionnel et à certains prêts et subventions des fonds fiduciaires. La décision est motivée par l'accumulation d'impayés de plus de 10 milliards de francs CFA. Africa Finance Corporation a signé une déclaration conjointe avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel pour promouvoir l'industrialisation durable et s'est engagée à soutenir l'initiative Partenariat pour le coton visant à renforcer le rôle de l'Afrique dans les chaînes de valeur du textile et du vêtement à l'échelle mondiale. Les travaux de l'UNIDO visent à soutenir la transition énergétique, la décarbonisation industrielle et le développement des industries agroalimentaire. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a dit hier espérer 10,5 milliards de dollars d'aide financière ces prochaines années du Fonds monétaire international pour un programme d'assistance financière. Le pays a sollicité un nouveau programme de soutien financier fin 2021, mais les négociations piétinent. Le programme porte sur 3,5 milliards de dollars et un accord entraînerait le déblocage d'un montant équivalent de la Banque mondiale.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous.
La CAF condamne Samuel Eto'o à verser 200 000 dollars américains pour violation des principes d'éthique. Mais l'ex-international pourra rester président de la FECAFOOT.
La CAF a jugé l'ancien footballeur international et président de la FECAFOOT coupable d'avoir violé les statuts de l'organisation en signant un contrat en tant qu'ambassadeur de la marque pour la société 1xBet, un site de paris sport en ligne, en échange d'une rémunération. Le jury disciplinaire a néanmoins estimé qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer Samuel Eto'o fils et Valentin Quen, président du club Victoria United, coupables de manipulation de match. Nous y reviendrons d'ailleurs en partie magazine avec notre correspondant à Yaoundé au Cameroun.
Nouvelle de la Copa América à présent, décisive, Emiliano Martinez envoie l'Argentine en demi-finale de la Copa América.
Le gardien Emiliano Martinez a enfilé de nouveau son costume de héros et permet à l'Argentine de disposer au tir au but de l'Équateur 4-2 après un nul 1-1 partout en temps réglementaire à l'occasion du premier quart de finale de la Copa América hier jeudi à Houston, au Texas, ici aux États-Unis. Cette Copa América ne propose pas de prolongation avant la finale. Les Argentins retrouveront mardi en demi-finale dans la banlieue de New York le vainqueur de la rencontre entre le Venezuela et le Canada qui s'affrontent ce vendredi à Arlington, au Texas.
Jeux olympiques 2024 basketball, la Grèce de Yanis Antetokounmpo affronte la Slovénie de Luka Doncic ce samedi en demi-finale du tournoi de qualification olympique du Pirée.
Le stade de la paix et de l'amitié du Pirée se prépare à vivre un véritable combat entre deux des meilleurs basketteurs de la planète. Le vainqueur jouera dimanche la finale face à la Croatie ou la République dominicaine pour une place au JO de Paris. Sèchement battue par la Croatie, 92-108 en ouverture, la Slovénie a dû s'employer pour battre la Nouvelle-Zélande avec un écart suffisant 104-78 et s'assurer la deuxième place du groupe A. Dans le groupe B, la Grèce s'est facilement adjudiée la première place en balayant la République dominicaine 109-82, puis l'Égypte 93-71.
Page des sports VOA Afrique signée Nanit Alani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, l'on a célébré hier 4 juillet la fête de l'indépendance. Cet événement commémore la déclaration d'indépendance de 1776, lorsque 13 colonies britanniques ont fait sécession, donnant naissance aux États-Unis d'Amérique. Comme d'habitude, la fête a été marquée par des parades, des feux d'artifice, des retrouvailles en famille. Quelques temps forts de la célébration avec Mouhamadou Mfa.
Comme de nombreux Américains, la vice-présidente Kamala Harris a célébré le 4 juillet, fête de l'indépendance. Elle s'est rendue à la Maison-Blanche en compagnie de son époux, rejoignant le président Joe Biden et la première dame Jill. Les quatre personnalités sont apparues sur un podium érigé pour la circonstance face à un public notamment composé d'anciens combattants et familles des militaires que Mme Harris a remercié.
Aujourd'hui, alors que nous célébrons la liberté, la promesse de l'Amérique, nous célébrons et exprimons également notre gratitude envers nos militaires, nos anciens combattants, nos familles de militaires.
Le président Joe Biden a lui appelé à préserver les fondements de l'Amérique tels que définis par les pères fondateurs.
Nous devons faire ce que nos fondateurs ont fait, montrer au monde que nous sommes une nation de dignité, d'honneur et de dévouement les uns envers les autres. C'est en vérité, et je pense vraiment, les amis, c'est une question de démocratie, c'est une question de liberté.
Toujours à Washington DC, à partir de 21h et pendant environ 17 minutes, depuis le National Mall, les Américains ont eu droit à des grands feux d'artifice. À Las Vegas, la Sphère, une salle de spectacle sphérique de musique et de divertissement, a servi de cadre aux festivités. Les personnes présentes ont profité d'un spectacle montrant plus de 500 drones formant des feux d'artifice, des étoiles et d'autres images, offrant un décor fascinant. Alors qu'ils célébraient le 4 juillet, de nombreux Américains s'interrogeaient sur l'avenir de leur pays à moins de 5 mois de l'élection présidentielle. Le président Joe Biden, 81 ans, qui a laissé une impression désastreuse lors de son débat du 27 juin face à Donald Trump, va tenter de rassurer l'opinion. Il accorde une interview à la chaîne ABC ce vendredi. L'interview sera enregistrée à l'occasion d'un déplacement de campagne dans le Wisconsin.
En France, ce vendredi a été consacré aux dernières tractations avant le second tour des législatives, au terme d'un important mouvement de désistement pour faire barrage à l'extrême droite. L'option d'un rassemblement national sans majorité absolue, mais avec majorité relative, est l'un des scénarios sur la table. Mais le RN, comme première force dans l'hémicycle, inquiète toujours et les associations de quartier multiplient les actions sur le terrain. Le reportage de notre correspondante et l'âme, le cœur à Paris.
À Paris, le nouveau Front populaire est en tête dans 13 circonscriptions sur 18. 9 candidats de l'Union de la gauche ont été élus dès le premier tour. Mais la montée en puissance de l'extrême droite reste une crainte pour les Parisiens comme Gilbert Georges, franco-sénégalais.
La France n'avait jamais vécu ce genre de situation. On se demande où on va. Le problème, c'est que je suis apolitique. Il y a des gens que moi, je ne peux pas ne pas supporter. Surtout quand on parle toujours du problème étranger. Le monde est fait des étrangers. Sans les étrangers, on ne peut pas vivre. Dans tous les pays, on est tous des étrangers. Même si je suis un Africain, j'ai une cousine, un cousin qui est français. Donc il faut faire avec. Mais il ne faut pas stagner, étiqueter les gens. Ce n'est pas normal. Il va arriver, il va falloir qu'il faut une grande manifestation pour contester ce problème, pour dire non, on n'avait pas ces gens de politiciens.
D'autres comme François, retraités, se résignent à voir le Rassemblement national gouverné.
Moi, je suis né sous Pétain et je vais peut-être mourir sur Le Pen. Alors, vous voyez le trajet que j'ai parcouru de ma vie. Je pense que c'est peut-être pas si mal qu'ils prennent le pouvoir pour que, parce que jusqu'à présent, les gens disaient oui, qu'on les a pas essayés, voilà. Ce sera peut-être mieux pour les ouvriers, je sais pas, peut-être. Mais pour tout ce qui est intellectuel, la liberté et tout, Le Pen, elle était contre l'Europe, elle était contre plein de trucs. Maintenant, elle est soi-disant pour. On pourrait essayer de ramener le maximum de gens, quoi.
Se résigner, hors de question pour Candice, jeune bénévole auprès de l'association Cité des Chances. Cette franco-congolaise parcourt les quartiers parisiens pour expliquer les enjeux de ces législatives.
L'inquiétude, elle est là, mais il y a aussi quand même un soupçon d'espoir, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même assez engagés et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens engagés qui croient un peu et qui sont prêts quand même à se battre, à se mobiliser. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a des interrogations assez basiques sur les modalités de vote, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut utiliser comme pièce d'identité, les horaires, etc., comment trouver son bureau de vote. Puis il y a aussi des interrogations sur les programmes. Donc nous, on fait pas mal de vulgarisation là-dessus. Et c'est vrai que ça ouvrait pas mal au débat et à l'explication. Et du coup, toujours à la vulgarisation, ce qu'on fait le mieux.
La campagne pour le second tour des législatives prend fin ce vendredi. Ensuite, ce sera le silence électoral avant la réponse des urnes dimanche soir. Elham Lecoeur pour VOA Afrique, Paris.
Au Cameroun, c'est un ouf de soulagement pour de nombreux fans de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, après la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, la CAF, a indiqué que la preuve de manipulation de match n'est pas établie en l'état contre Samuel Eto'o. Cette décision est néanmoins assortie d'une amende de $200,000 pour violation grave des principes d'éthique retenus contre Samuel Eto'o pour avoir signé un contrat rémunéré avec une compagnie de paris sportifs. À Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jolenta.
De nombreux Camerounais sont satisfaits du non-lieu prononcé par le jury disciplinaire de la CAF au sujet des soupçons de manipulation des matchs reprochés au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et Valentin Kwen, président de Victoria United, un club de première division. Christian Benga est un opérateur économique à Yaoundé.
La suspension de Samuel, à travers le monde, on devait raconter beaucoup de choses. Et ça ne devrait pas nous honorer. L'amende de 200 000 pour avoir signé le contrat avec ICMB, c'est normal parce que l'éthique a été sanctionnée. Je crois quand même que pour la décision de la CAF, le trucage des matchs, il n'y a pas eu d'éléments probants pour pouvoir l'accuser à ce niveau.
Même satisfaction pour Marguerite et Sama, une commerçante au centre-ville de Yaoundé.
Effectivement, il n'a rien fait de mal à ça. Il n'a même pas truqué le match. Comme les Camerounais sont ingrats, ils n'aiment pas remercier leurs frères, ils n'aiment pas encourager leurs frères à faire le bon travail. Parce que quand tu fais déjà le bon travail, on va chercher à créer tous les motifs possibles pour te nuire. Et moi, je suis d'accord de la CAF parce qu'on ne lui a rien imputé.
Ce matin, certains Camerounais se sont rués vers les kiosques à journaux pour s'enquérir des analyses de la presse. Cet agent public sous anonymat n'apporte pas totalement son soutien à Samuel Eto'o.
Ça n'a pas l'honneur du Cameroun, mais c'est pas bon, comme c'est un Camerounais.
Les choses que l'office fait vis-à-vis du Cameroun, je vous prends d'abord l'exemple du problème du ministère des Sports, les réactions de l'office. Un État sur un État, c'est pas comme ça.
Au siège de la Fédération camerounaise de football, l'atmosphère est détendue. Quelques entraîneurs de football et anciens des Lions indomptables divisent en aparté sur le sujet. Seul l'ancien international Bernard Toutang brise le silence.
Mais moi, en tant qu'ancien footballeur, par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à ce qu'on a écouté sur les réseaux sociaux, par rapport au verdict, vous avez pu être pire, on ne peut que se réjouir. moi qui suis près de lui, en même temps ancien footballeur, on ne peut que me réjouir parce que je sais que le travail qu'il mène, c'est d'abord pour les footballeurs. Et il va continuer à le faire. Moi, je suis heureux parce que j'ai lu, entendu tout et n'importe quoi.
Selon l'avocat Didier Ngono du barreau du Cameroun, la décision de la CAF ne blanchit pas totalement Samuel Etofis.
Sur le plan juridique, les amendes sont liées à une certaine condamnation. C'est des condamnations pécuniaires. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que lorsqu'on dit coupable, ça signifie que ça renvoie ses pecs à une peine privative de liberté. Quand on vous dit déjà que vous avez été condamné par une peine d'amende, par des astreintes, c'est des condamnations. Donc, c'est un grand dommage.
Dans un communiqué de presse, le conseil de Samuel Eto'o a annoncé que l'ancienne star de football camerounais a fait appel de la décision devant le jury d'appel de la CAF, car estime-t-il, la CAF ne dispose ni d'un code d'éthique, ni d'une commission d'éthique pour lui infliger une amende de 200 000 dollars. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Depuis la fin du colonialisme en Afrique, de nombreux étrangers ont visité le continent et franchi le pas pour s'y installer définitivement. Le guitariste d'origine britannique John Collins est du nombre. Après avoir brièvement visité le Ghana avec son père lorsqu'il était enfant, il y est retourné. Des années plus tard, aujourd'hui naturalisé, Collins contribue à l'industrie musicale du pays en tant que musicien. Rosine Monizero.
Je suis venu au Ghana quand j'étais enfant sans but précis, mais je suis revenu au Ghana en 1969 pour être avec mon père parce que mes parents, ma mère et mon père avaient divorcé. Je voulais donc être avec mon père, j'avais environ 23 ans et j'ai suivi des cours d'archéologie, de sociologie et de sciences politiques à l'université du Ghana à Lagos. Donc je suis un Lagonite. Lorsque je suis revenu en 1969, comme je l'ai dit, j'avais environ 23 ans et j'étais musicien en Grande-Bretagne. J'ai joué de la guitare rock, de la guitare jazz, de la guitare blues.
John Collins fait partie des quelques membres de la diaspora internationale qui se sont installés de façon permanente au Ghana, se sont naturalisés et ont apporté des contributions significatives à l'histoire du pays. Il est très connu au Ghana et en Afrique de l'Ouest, principalement pour son travail sur la musique populaire et néo-traditionnelle, y compris le high life et les rythmes afro.
J'ai rejoint tellement de groupes différents, j'ai formé tellement de groupes. Je suis allé au Nigeria, j'ai joué avec des gens comme Victor Waifo et j'ai beaucoup travaillé avec Fela Kuti, Anikulapo Kuti au Nigeria. J'ai aussi travaillé avec des groupes au Ghana. Je suis passé à la télévision, j'ai fait tellement de choses, mais c'était un travail d'amour.
John Collins a également travaillé comme journaliste musical, écrivain et historien. Ses publications universitaires sur la musique populaire et néo-traditionnelle africaine sont utilisées dans les universités du monde entier. Mais, dit-il, vivre au Ghana n'a pas été de tout repos pour lui.
C'est très difficile, bien sûr. En Grande-Bretagne, je n'ai jamais connu de coups d'État, de couvre-feu, des pénuries, de coupures d'électricité, etc. Mais heureusement, mon caractère est tel que je ne suis pas trop matérialiste. Et si j'étais très à la recherche d'une vie matérielle très confortable, je ne pense pas que je me serais installé au Ghana, car les choses y sont difficiles.
Ici, au département de musique de l'Université du Ghana, Collins a aidé à structurer un cours de musique populaire et traditionnelle et y a enseigné pendant de nombreuses années. Il a inspiré son ancien étudiant Eric Sunudo, qui est devenu professeur de musique au département.
Ce qui m'a fasciné chez lui, c'est qu'un étranger, un homme blanc, nous enseignait notre musique, alors que notre peuple enseignait la sienne. J'ai trouvé cela très intéressant, très intrigant, et c'est ce qui m'a rapproché de lui. Au fil des ans, il est devenu mon mentor, mon père, tout. À un moment donné, nous partagions le même bureau et j'étais très proche de lui.
Aujourd'hui, John Collins passe la plupart de son temps à Accra, la capitale du Ghana, où il vit dans la maison où sont enterrées les cendres de son défunt père.
Collins a épousé une Ghanéenne. Il a un fils et un petit-fils. Il estime que c'est le peuple ghanéen qui a rendu son séjour en Afrique mémorable.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.